Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le retour de Tech & Co, la quotidienne, 20h04, merci d'être là. Allez, bonnes vacances à vous qui êtes peut-être déjà en train de profiter de ces quelques journées de repos, vous avez bien raison. On débrief ensemble l'actu tech jusqu'à 21h avec Cédric Ingrand, Jean-Baptiste Kampf, nous avons aussi Christophe Honnête et Frédéric Simotel. On reste un peu du côté de ChatGPT parce que vous avez suivi quand même l'actu. Ça y est, ChatGPT passe à la version 5.6, nouvelle famille de modèles donc, avec Sol, Terra, Luna. La Sol c'est le top, Terra c'est la moyenne gamme et la Luna c'est la petite, rapide et peu chère. Voilà, alors tout ça a été lancé d'abord aux États-Unis. Donald Trump a mis son nez là-dedans. Il s'est dit, oulala, attendez, on va réserver ça pour l'instant aux élites, et puis on verra après si ça ira à l'étranger. Visiblement, ça y est, c'est autorisé à l'étranger, mais pas toutes les versions. Enfin, on est en train de revivre ce qu'on a vécu avec Fable et Anthropique, hein, et Mythos. Est-ce que vous avez des infos ? Fred, ça vient de tomber, je crois, en plus.
Oui, bah à 19h, comment il s'appelle ? Sam Altman faisait la présentation un peu de tout ça. Juste un petit mot pour dire que j'ai lu tout à l'heure une interview de Brad Smith, donc le président de Microsoft, qui dit qu'en ce moment, c'est un peu le bazar, ces histoires de régulation. Il dit en termes de toute la régulation qui est mise en place sur l'IA, enfin les décisions plutôt prises par l'administration Trump, il dit ça manque de transparence, on manque de contrôle de tout ça et on est vraiment en train de mettre en l'air un peu le business. Et voilà, il l'a dit un peu de façon un peu crue. Mais oui, comme tu l'as dit, alors on avait quelques bribes, mais là à 19h, il a hors française, il a donné un peu plus d'infos donc sur okay. Sur tout ça. Alors bon, il a donné toutes les versions, enfin toutes les comme d'habitude les classements, les vitesses, enfin tout ce qu'on connaît, les poids de tout ça. Il a aussi parlé d'un GPT Live hein, que je crois que Jean-Baptiste l'apprécie particulièrement.
Donc GPT Live, c'est l'assistant vocal de ChatGPT, en fait. Voilà. C'est l'interface vocale.
C'est l'interface vocale, ouais. C'est une vraie interface.
Mais ça fait longtemps que ça existe, ça.
C'est non, parce qu'avant
c'est le bouton bleu là qui est sur l'iPhone. Moi, je m'en sers souvent.
Ouais, mais t'étais ça se coupait en cerf. Hein. Ouais. Ça s'arrêtait. Là, tu éteins ton téléphone. En fait, tu touches plus au téléphone. C'est une conversation.
Et ça marche nickel.
Franchement, c'est pas mal.
C'est pas mal.
C'est une vraie avancée.
En fait, il peut parler. Il peut parler et écouter simultanément. Or, ce qu'on faisait avant, c'est tu parlais.
Oui, il s'arrêtait.
Il s'arrêtait. Et il te.
Ok. Effectivement, c'est assez agréable parce que tu peux lui dire arrête-toi, tais-toi, et tu continues parce que tu sens qu'il part dans le. Mais si, c'est d'expérience. Ça, c'est pas mal.
Parce que des fois, je dis ça à Fred, il s'arrête pas.
Ouais,
est-ce qu'on pourrait pas.
L'année prochaine.
Tu peux pas le mettre à jour avec.
Non, mais surtout, je te l'enlève, je te mets un robot et je te mets Fred et je l'aurai entraîné avec tous les contenus. Mais
c'est quoi, je préfère le garder comme il est parce que.
Contenu de BFM que vous avez tous en replay et donc je pourrais faire un Fred virtuel et donc là tu pourras l'engueuler et ça sera légal.
Attention, non, mais tu sais quoi, c'est intéressant ce que tu dis. Tu arriveras à faire un Fred Simotel virtuel?
Pas aussi bien qu'en vrai, mais oui.
Non, mais pas aussi bien.
Bah, avec pourrait, avec un. Attends, mais déjà, tu
on prends pourrait
avec Radium et Eleven Labs, je te fais une voix, franchement.
Oui, nickel.
Parce qu'en fait, je suis désolé, vous êtes les plus faciles à cloner. Vous avez, il y a une quantité de contenu sur vous qui est absolument hallucinante.
Là, l'échantillon, il est immense.
Vous êtes hyper facile à cloner.
Non, et puis tu commences à avoir des endroits où les gens disent je clone telle personne, c'est-à-dire que je nourris de tous les discours qu'il a fait, de toutes les interventions, de tous les Q&A, de toutes les réunions. Et quelque part, j'arrive à recréer quelqu'un qui, dans un échange, se comporte exactement comme la personne.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive à cloner la voix de Fred et des phrases qu'il pourrait dire, mais pas la profondeur de ce qu'il raconte. On est d'accord. Non, les gars. Mais Fred, défends-toi.
Mais non, parce que justement, on est en train de travailler sur la bêta version là chez nous là. Avec, alors c'est du Mistral derrière, et je peux dire que quand tu commences à faire tes skills et que tu lui dis un peu tous tes trucs, il va très loin et il réfléchit comme toi, il écrit comme toi. J'arrête pas de le dire aux journalistes en disant, pensez que, enfin, faut vraiment travailler autrement parce qu'il écrit comme toi, je t'assure.
Il a le style.
Et c'est assez impressionnant là. Je vois dans les skills et en plus, il apprend. Il te dit, j'ai repéré que tu étais un peu comme ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Tu avais un ton un peu sarcastique. Tu aimes bien parler tel sujet. J'ai repéré tout ça et il va chercher. Il va te dire, j'ai repéré que souvent tu fais des trucs où tu dis, voilà, il y a trois raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec tes trucs. Voilà, est-ce que tu veux qu'à chaque fois je mette ton raisonnement en trois points?
Tu vois, sur Kyber, on a plein de démos où en fait on a des Rich Mini, tu vois, c'est ce petit robot, et en fait où toute l'IA est déportée, hein, c'est un des buts de Kyber. Et en fait, bah, toutes les démos qu'on a, elles ont ma voix. Les gars, ils ont pris toutes les âneries que j'ai racontées sur des plateaux télé et dans des podcasts.
Et Dieu sait s'il y en a.
Il y en a. Et puis, bah, en fait, j'ai écrit plein de trucs, de docs, de rapports, ils ont accès, et en fait, bah, c'est vrai qu'ils répondent pas mal, quoi.
Il répond pas mal, mais on n'arrive pas à ta dextérité, à ton naturel.
Attends, ils ont fait ça en 5 minutes, etc. Ouais. Imagine, là, t'arrives, tu fais, je mets 100 heures de calcul sur l'ensemble des contenus BFM Business, en voix, en podcast, etc. Tu fais du speech to text, t'as tous les écrits, tu accèdes à tous les documents qui sont stockés dans votre SharePoint quelque part. Je te promets, tu vas arriver à un truc assez cool.
Ouais, moi, je le vois dans les préparations d'interview et comment je retranscris la notre interview, et je peux dire, dans les déroulés, il fait exactement ce que je fais, quoi.
Mais pour vous dire, c'est vrai qu'on expérimente un truc avec Fred, on a été filmé et cloné par des caméras, etc., pour voir ce que ça pourrait donner, en fait, un clone de Fred Cibotel ou de François Sorel.
Pour faire des bandes annonces,
pas pour remplacer nos personnes dans les émissions, mais voir ce que ça donnerait, tu vois, par exemple, pour des bandes annonces ou des tâches à faible valeur ajoutée, on va dire.
Pour revenir sur juste avant qu'on parle de live 5.6, il y a quand même un gros push sur la partie développement, hein, parce que quand même ils s'ont bien fait prendre la couronne par Claude déjà en 4.7, 4.8 et puis en 5 avec Fable et Mythos. Un gros push sur la sécu et avec les premiers retours qui ont l'air d'être assez intéressants, où justement ils ont travaillé ça, et beaucoup de push sur Codex, vraiment, donc la partie mais pas juste ça. Qui remplace ton faire aussi un peu ton cowork et ton automatisation, ton interaction machine.
J'ai vu sur toute la partie raisonnement aussi, certains disent que voilà, ils sont vraiment améliorés sur
ils sont améliorés, et puis après, Claude va sortir une version qui va être meilleure. Enfin,
ça s'appelle ChatGPT Work. Hein, ça vient de tomber là. Je viens de recevoir le communiqué de presse. Je sais pas, Fred, si tu l'as vu. Qui est un super codex finalement.
Mais donc, il y a énormément de travail autour de Codex.
ChatGPT Work, ça va permettre de rendre tout ça beaucoup plus accessible.
Ouais, c'est ça.
Aussi, ça va simplifier pas mal de choses. Et donc, ça veut dire que, alors, non pas qu'il faut forcément être un ingénieur pour développer des choses avec ChatGPT, mais ça va permettre de quand même, des petites entreprises de pouvoir avoir accès
à ça. Et là, ils ont le droit de commercialiser ça en Europe.
A priori. Bah, visiblement, oui. Et en fait, dans Work, il y a Chat, Work et Codex dans une même interface. Voilà. C'est une application qui réunit les trois services.
Et si je ne me trompe pas, là, ChatGPT 5.6 est les meilleurs sur un benchmark qui doit s'appeler Arc AGI 3, qui est le benchmark pour atteindre l'intelligence artificielle généralisée, on peut en reparler, et c'est le meilleur, là, il doit être à quelques pourcents, alors que les autres étaient à quelques pourcents, mais moins.
Ok, d'accord. Donc voilà, ChatGPT est toujours dans la course.
Là ils sont state of the art.
Et puis ils sortent aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais ils sortent aussi beaucoup de versions très pointues dans des domaines scientifiques, sur la médecine, sur tout un tas de domaines. Non, ils sont toujours bien. Après, il y a le côté rentabilisez-moi tout ça, les amis.
Voilà pour 5.6, ça vient juste d'être annoncé, alors on y reviendra sans doute sur BFM Business dans les jours qui viennent, mais en tous les cas, ça y est, c'est lancé, et ça sera développé en France et en Europe de manière progressive, donc assez rapidement. Je vous propose de parler de Samsung maintenant, ça vous va ? Samsung qui cartonne en ce moment. Samsung, c'est vraiment la boîte bankable. Et je parle pas de Samsung smartphone, télé, etc. Parce que ça, c'est, j'ai presque envie de dire, du pipi de chat à côté de la branche Samsung composant, Samsung Electronics
ouais.
Qui, elle, fabrique, on va dire, l'immense majorité des composants de votre iPhone, de tous les téléphones, en fait, hein, les écrans, la mémoire, etc., etc. Et Samsung profite en ce moment de cette folie de la mémoire et de certains composants et explose, en fait, ses résultats financiers, Cédric. C'est dingue.
Ils ont fait quoi, 18 milliards de bénéfices sur un trimestre ?
Ils devancent Nvidia.
Oui, c'est milliards. Ça. 18 50, milliards.
58 milliards sur le
téléphone. 58,5, excusez-moi.
Ah, pardon. Non, de revenus ou de bénéfices ?
Il parle de bénéfices.
Moi, je parle de bénéfices.
De bénéfices.
Ouais.
18 millions.
Non. Plus 50 milliards de bénéfices sur le deuxième trimestre.
Alors, il y a un bénéfice opérationnel pour le deuxième trimestre de 2026 de 58,5 milliards de dollars. Voilà, ah ouais, moi c'est ce que je vois.
Ah oui, non, 58 milliards. Ah. Ils ont multiplié par 18, tout ça. Non, c'est...
Ah oui, oui, non, pardon, ils ont fait 1800% voilà, par rapport à l'année dernière.
C'est ça.
Et à eux seuls, 94% des bénéfices de Samsung. Pas mal.
C'était mon coup de cœur l'autre soir. J'ai un coup de cœur pour Samsung. Je trouve
que c'est, pourvu que ça dure.
C'est l'entreprise qui fait tourner le monde de la tech et dont on parle pas, enfin, en parle-t-on, on en parle évidemment souvent, maintenant qu'on met pas toujours dans le
non, mais ça nous rappelle que bon, il y a beaucoup d'incertitudes sur les différentes sur la monétisation et la capacité à générer des profits d'un certain nombre d'acteurs qui investissent massivement sur l'IA, mais ce qui est sûr, c'est que le hardware il fonctionne, hein, et que ceux qui aujourd'hui réussissent, bah c'est ceux qui ont un business model qui est en tout cas éprouvé, qui est celui qui installe dans les data centers et dans les serveurs.
Et pour vous donner un ordre...
Ils sont verticaux, ils sont horizontaux, ils sont partout, tu prends dans n'importe quel sens, ils ont toutes les diagonales.
La progression du bénéfice, écoutez bien, ça va dépasser le bénéfice cumulé généré au cours des 40 dernières années de Samsung. Ouais.
Je comprends pourquoi il y a deux phénomènes.
C'est-à-dire que c'est.
Il y a un phénomène de volume.
C'est quasi.
Il y a un phénomène de volume.
Miraculeux, quoi.
Il y a une demande dingue et il y a des prix qui ont massivement augmenté. Donc, non seulement tu augmentes dramatiquement tes volumes, mais en plus, tu augmentes tes prix. Donc, effectivement, parce aujourd'hui...
On est ravis pour eux, mais c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde.
Oui. Ah oui, non, c'est sûr.
Tu l'as dit ici, Apple a augmenté ses prix, Microsoft a augmenté le prix de la Xbox.
Tout le monde va augmenter ses prix.
Je voyais récemment notre ami et camarade Octave Clabat qui se plaignait en disant aujourd'hui j'achète des SSD, tout à coup ça fait x6, x7. On me dit mais faites vite parce que ce sera x12 à la fin de l'année. Enfin, bon. Non, c'est monstrueux.
Il faut se rendre compte que surtout, la pénurie va durer longtemps.
Ouais. On parle de jusqu'à 2030.
Bah c'est sûr que c'est 2030. Moi je peux te garantir que c'est au moins jusqu'à 2030 parce que finalement il y a que trois boîtes qui font de la RAM, hein, SK, Samsung, Micron à peu près, et quelques micro acteurs qui font quasiment rien. Et à E3, en fait, une partie fait quasiment que de la HBM, donc que de la mémoire pour l'IA. Les Chinois sont censés créer quelques fabs qui vont arriver pour fin 2028 à l'origine. Là, ils sont déjà à fin 2029 et c'est de la LPDDR6. Mais on considère que ça va augmenter la production de RAM avec toutes les nouvelles fabs de 20%. Or, la demande, en fait, elle peut absorber 50%. Et donc, bah, tu peux dire 2030 sans problème. Ouais.
Et Samsung ne peut pas, on va dire, allez, je sais pas moi, monopoliser une autre partie d'une usine et se dire, vous savez quoi, bon, on va faire un peu plus de RAM parce que ça cartonne.
Ah si, s'ils veulent faire de l'humanitaire, ils peuvent faire ça, mais je ne pense pas que ce soit le...
Non, mais enfin, je veux dire, il n'y a pas ça ne respire pas ces usines-là.
C'est pas aussi facile que ça à construire ces usines, je pense.
Hein, c'est très compliqué. Attention, une usine de RAM n'est pas une usine de CPU.
Ouais.
Attention, ça n'est...
Non, c'est
les mêmes idées, mais en fait, tes chaînes de prod, elles font un truc et c'est des environnements qui sont très très précis dans du vide, etc. Et surtout, moi, je pense que c'est très facile de faire de la RAM. Faire de la RAM relativement peu cher par unité de RAM, c'est très 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 difficile. Ouais. Parce qu'en fait, dessiner une RAM, c'est quand même pas. Enfin, toi, et de la NAND, franchement, il y a rien de très très compliqué. Ouais, mais sauf que le faire très très petit à un prix très très faible par rapport à la quantité, sauf qu'aujourd'hui, tu as besoin de quantités monstrueuses. Et donc,
il y a beaucoup de déchets quand ils fabriquent ces trucs-là, parce qu'on sait que pour certaines puces, il y a pas mal de déchets.
Un des critères, c'est d'arriver à avoir un yield le meilleur possible.
Voilà, c'est ton sujet du yield.
Et puis surtout, sans RAM, ça ne marche pas.
Bah non. Sans RAM, on n'avance pas, j'ai envie de dire.
Des modèles plus petits qu'il faut faire, que tu fais tourner sur des devices, de la compression de la RAM, on va avoir téléchargé de la RAM, c'est les pubs téléchargent de la RAM, augmentent ta RAM. Qui vont revenir.
Moi, je me dis, tiens, il y en a un qui a vraiment raté son virage. C'est alors, on va repartir plusieurs années en arrière. C'est Texas Instruments. Parce que je pense que Texas Instruments aurait pu être un Samsung-like quelque part s'ils avaient poursuivi. Je sais pas s'ils auraient fait des smartphones, mais voilà, ils auraient pu élargir. Mais Samsung, c'est ça qui est dingue. Puis Samsung, faut voir. Bon, au-delà du gouvernement, qui à un moment, faut voir la Corée du Sud. C'est quand même un pays. Il a que des ennemis autour de lui. Hein. Corée du Nord, Chine. Le Japon,
c'est pas
les super amis. Bon, après, les Américains sont un peu partenaires, mais on voit que les Américains aujourd'hui, partenaires, amis, ennemis, on sait plus trop. Et puis l'Asie du Sud-Est qui est toujours en train de bouillonner pour essayer de sortir des choses. Donc, c'est un pays qui cherche toujours cette résilience, qu'elle soit géopolitique, militaire et technologique. Et donc, voilà. Et on soutient, enfin, on voit les SK Hynix, on voit Hyundai, enfin, LG, enfin, on voit tous ces grands acteurs. Le gouvernement est derrière. Mais bon, voilà, maintenir sur autant de créneaux. Enfin, moi, je trouve cette boîte.
LG, c'est complètement à côté. Hein. C'est pas leur spécialité. Hein,
mais même, leur expertise, c'était pas mal les écrans.
Oui.
En fait, la valeur des écrans, en fait, est descendue beaucoup. Non, moi, ce qui me pose comme vraie question, c'est qui est en train de fabriquer une usine de RAM en Europe?
Ouais. Bah, j'ai regardé sur Google Maps, je n'ai pas trouvé. Hein.
Non. Bah, personne. Il faut trouver la friche industrielle.
Même adresse d'où il y a
commencé. Mais est-ce qu'on aurait la capacité à fabriquer une usine de RAM?
Donc, adresse, il y a des usines de puces. Hein, donc, il va y avoir des usines de puces.
Il y a des friches industrielles là-bas.
Voilà. Et en RAM, moi, je n'ai rien vu. Non. Donc, même pas le début d'un commencement de quelque chose.
Parce que c'est peut-être pas aussi facile à faire. Regarde les Chinois. On aurait pu penser qu'ils allaient développer une alternative.
C'est une question d'argent, non?
C'est une question d'argent. Et surtout, là, tu lances une usine, elle arrive dans 5 ans. La pénurie est sortie. Et là.
C'est ça le truc.
C'est que t'as
un tel délai.
Bah, tu sais pas quoi faire de ta RAM.
Mais c'est pas ça, c'est que tu vas vendre ta RAM à un quart du prix. Et donc, en fait, c'est embêtant. Donc, en fait, c'est un business d'offres et demandes compliquées à long terme.
Avec des sites un peu boom-bust, etc.
Parce que vraiment, la RAM, les fabricants de RAM,
il y a aussi beaucoup de spéculation dans ce marché-là. En tout cas, moi,
d'après ce que j'ai.
De NetGem et qu'on s'approvisionnait, en composants.
Oui.
Il y a des pénuries qui étaient, là elles existent, hein, mais qui étaient aussi largement amplifiées par un certain nombre d'acteurs pour faire monter les prix.
Et d'après ce que j'ai compris, avant cette flambée du prix de la RAM grâce ou à cause de l'IA, en fait des acteurs comme Apple tordaient le bras de tous ces fournisseurs de RAM. Oui. Parce que finalement, à l'époque, les forces étaient inversées, c'était Apple qui était le big boss là-dedans.
Mais tu sais, c'est intéressant. C'est pas gay tout ça. Enfin bon,
ah, la RAM, c'est pas gay.
Voilà, ça.
De Paris. Alors, c'est le dernier.
Mais tu sais, hier, autant j'ai mis en.
Mais est-ce que ça, une IA pourrait faire ça? Je pense pas.
Non, c'est pour ça que tu remplaces ça pas par une IA.
Mais tu vois, je disais, mon coup de cœur, l'autre soir, c'était Samsung. Hier soir, mon coup de cœur, et ça les faisait rire, je disais, c'est la RAM. Je disais, voilà, une technologie complètement discrète, mais indispensable aujourd'hui. Et qui nous. On aurait pensé, mais même il y a 18 mois, se dire, il y a un soir, dans Tech & Co, on aura un débat sur la RAM. Je dis, mais attends, t'étais fou, quoi. Tu sais, la RAM, nous, c'était la petite ligne dans les spécifications techniques. Et aujourd'hui, on a un débat sur la RAM en parlant de géopolitique, en parlant de grands de cycles industriels qui peuvent être ralentis. Enfin, c'est quand même incroyable.
Le seul truc qui pourrait peut-être que ça se calme, c'est qu'il y ait une explosion de la bulle de l'IA.
Alors, on va y revenir. Mais c'est intéressant de voir qu'on passe des années à dire, regardez les géants de la tech, nouveaux maîtres du monde, etc. Et là, tu t'aperçois de quoi ? Que les nouveaux maîtres du monde, c'est les vendeurs de pelles.
Mais oui.
C'est-à-dire que, oublie le chercheur d'or, c'est le vendeur de pelles qui gagne à la fin. De toute façon, on le sait, sur le long terme. Et là, c'est passionnant. Parce qu'en plus, de fait, c'est des choses qui se passent un peu à bas bruit. Parce que, de fait, on parle pas de Samsung Electronics tous les jours. C'est un truc fiable. On sait que ça fournit des composants, que ça en fournit probablement énormément à plein de monde. On n'a pas plus de chiffres que ça, même si les chiffres sont quand même publics ou parapublics. Tu dis, Fred?
Ils fournissent ses écrans. Enfin, tu vois, même ça.
Ah non, mais ça, on savait. Et là, on s'aperçoit. J'ai revu le chiffre. 58 milliards en un trimestre. On comprend mieux
le gars qui négocie la RAM chez Apple.
Les salariés qui.
Il doit être un peu plus stressé qu'avant, je pense. Le gars chez Apple qui s'occupe de la RAM, qui s'occupe d'acheter la RAM chez Samsung.
Ah, ils sont plusieurs.
Les forces en puissance ont changé.
Tu te rends compte que quand même, tu as une boîte globale qui a dit. J'arrête de faire de la RAM
pour
le grand public et je ne fais que de la HBM. Et d'ailleurs, j'ai vendu toute ma prod de cette année et l'année d'après.
Ouais.
What?
Et ça durera peut-être jusqu'en 2030.
Et là, Meta a fait des trucs assez rigolos pour réutiliser de la DDR4 en parallèle avec des modules à côté pour pouvoir réutiliser de la RAM existante pour voir.
Peut-être que sur le bon coin, on va pouvoir vendre notre RAM.
Mais tu peux,
c'est intéressant.
Vas-y, tu vas voir, ça fait un bout de temps que ça marche. Hein.
Ouais. Moi, l'année dernière, j'ai racheté un Mac Studio avec plein de RAM dedans. Je pense qu'il va payer ma retraite.
Moi, je pense que Christophe a un vieux. Christophe doit avoir un vieux PC sous Windows 95 avec des barrettes de RAM.
Oui, mais on en avait moins à l'époque.
Il n'y avait pas
128.
Ouais, mais 8 mégas. 8 mégas.
C'est ça le truc. Hein.
Ça peut valoir de l'argent dans quelques mois. Là, vous vous moquez de 8 mégas. Mais peut-être que on se dit, 8 mégas.
Toute cette vague IA, en fait, elle a remis le hardware au centre du jeu, finalement. Parce que, autrefois, tu étais dans un monde où on se disait, bon, on développe du software. Bon, il y avait un peu de cloud, mais finalement, il y avait une élasticité absolument énorme. Alors qu'aujourd'hui, l'IA fait qu'il faut de la puissance de calcul et de la GPU. Donc
ça, c'est très intéressant parce que Pendant très longtemps, l'informatique était donc ce qu'on appelait CPU bound, donc limité par la puissance de calcul. Puis à un moment, là, en fait, tu as été IO bound, c'est-à-dire en fait quasiment limité par tes connexions réseau. Donc c'était le grand moment des stacks réseau, du kernel et du pure soft, parce que en fait, tu faisais des microservices, tu allais faire des API REST sur le. Et là, tu reviens et donc tu montais dans les langages du Node, du machin. Et là, tu reviens sur le moment où c'est la première fois qu'on est depuis les années 90, RAM bound, qu'on est limité par la RAM.
Ça me rappelle.
Est-ce que ça pousse pas, ça a pas poussé aussi les développeurs à intégrer plus de frugalité?
Et donc, c'est ce que j'ai dit, des small language models et de la compression de RAM. Ouais.
De la frugalité.
La frugalité de la RAM.
Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai démarré ma carrière, ça fait longtemps, on va pas dire que c'était.
Non, c'était il y a quelques jours.
Je me souviens de la limite de Windows 2 avec une limite de
640 kilos.
Ouais, de 644 de RAM. Et après, il y avait des extended, des expanded. Et alors, j'y comprenais pas grand chose, mais en tout cas, on était contraint par ça. Puis un jour.
Boum.
Le verrou a sauté. On s'est plus jamais préoccupé de ce problème. Et là, on revient. Avoir cette cette attention à la puissance de calcul locale qui définit en fait tout ce qu'on va pouvoir faire.
Moi, je reviendrai à mon coup de gueule d'hier sur les développeurs en langage C. Quoi. C'est un langage C qui bouffe de la mémoire sans cesse. Ben voilà, ça fait partie de l'optimisation, de revenir sur d'autres langages, le Rust. Et tout.
Alors, si j'ai une IA de Fred, je lui dirais, ne répète pas ce que tu as dit la veille. Je lui dirais ça, pour voir si ça marche.
Par contre, tu mets en haut du prompt.
Voilà. Je le mets en haut du prompt. Oui.
Voilà.
Mais je suis persuadé que tu sais quoi que
ça marche.
Ça ne marcherait pas.
Non, parce qu'on peut se poser la question, te dire comment on fait pour optimiser la RAM.
J'aurais jamais dû faire ça.
Fais gaffe, il ne reste que 3 minutes.
Non, s'il vous plaît, on passe au satellite. Allez, prenons de la hauteur, les amis.
Ah tiens, oui.
Montons à 300, 400 km d'altitude. parlons de ce nouveau projet très mignon de la part d'Elon Musk qui prépare une constellation de, non pas 20 000, 30 000 satellites, parce que 100 000, c'est mieux. 100 000 satellites pour cette nouvelle constellation. Ce serait donc des satellites Starlink de toute nouvelle génération. Je crois que c'est la troisième. Qui serait à des orbites encore plus basses que celles d'aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, pour l'IA, forcément, parce que ça pourrait effectivement accélérer les échanges de données. Et ce serait des satellites qui pourraient faire transiter plusieurs gigabits de données par seconde. C'est-à-dire qu'on aurait véritablement du Starlink tout aussi rapide et puissant que de la fibre optique. Voilà, ça c'était la première actu. Est-ce que ça vous parle, tout ça ?
Il y a un horizon là-dessus ou Enfin non, on va pas demander un horizon parce que le truc
un horizon dans l'espace, c'est les dates. C'est compliqué, vois-tu.
Il est fâché avec le calendrier de toute façon, même si à la fin souvent il a raison, mais enfin en tout cas il fait ce qu'il dit, mais faut pas oublier lui non plus aussi est dans une situation un petit peu inconfortable parce que le cours de l'action SpaceX, on rappelle un SpaceX c'est
SpaceX
et XAI et
non, ça s'appelle
oui,
SpaceX.
Ça s'appelle XAI. Il y a même plus de SpaceX X / Twitter est aussi dedans, donc vraiment c'est un petit espèce de petit consortium.
Alors, juste une chose, il devrait commencer à lancer ses satellites, parce qu'en fait, c'est une mise à jour de sa constellation qui existe déjà. C'est la V3, et il pourrait commencer à lancer les premiers satellites à la fin de cette année. Voilà. Après, bien sûr, ça prendra des années, hein.
Il promet 10 à 10 à 20 fois les capacités de la génération précédente dans un satellite qui fait une quarantaine de mètres, la taille d'un petit Boeing. Donc très bien, mais il va falloir les lancer, il va falloir les financer aussi. Alors c'est vrai que
Les satellites Starlink ils sont tout petits, hein. Ils sont pas gros comme des avions, hein.
Non, je te parle de la fusée pour le lancer.
Ah pardon, lanceurs. Je croyais que tu parlais de la taille des satellites.
Non, ils sont pas très gros.
Il fait nuit.
lui aussi a besoin de soutenir son cours de bourse.
Oui, mais bon, ce qui est sûr, c'est enfin Starlink, c'est quand même un grand succès aujourd'hui.
Oui.
Tu vas dans un endroit, les gens ont Starlink, ça va changer la vie. Donc,
on s'en rend pas compte parce qu'on est très gâtés en termes d'infrastructures télécom.
Franchement, il a cette ambition effectivement de pouvoir adresser effectivement la robotique, l'IA, mais il y a aussi derrière ce profil direct to cell ou direct to device, c'est-à-dire le fait de pouvoir bypasser les opérateurs télécom et adresser directement les téléphones en ayant des orbites plus basses et des latences plus faibles, hein, de ce que je comprends. Donc il y a aussi tout ce projet derrière.
Bien sûr.
Il y a une compétition mondiale dans laquelle il y a le projet Amazon Cooper, mais les ordres, là Amazon vient d'annoncer Ils vont passer, je crois, à 10 000 ils veulent passer à 10 000 satellites à un horizon.
Et voilà, puis ils ont eu l'autorisation des instances françaises. Donc ça, c'est cool.
Les fréquences.
Ouais. Et puis faire attention parce que quand tu descends en orbite basse, tu as un peu plus d'atmosphère. Donc ça veut dire que tu as beaucoup plus de résidus et tout ça. Donc tes satellites vont moins vite.
Ils s'abîment plus vite.
En fait, on va avoir un énorme sujet. Enfin,
100 000 satellites. Plus t'es haut, mieux c'est. Mais tu as un vide absolu. Mais voilà. Mais
c'est pour ça que les satellites basse orbite ont une durée de vie très très courte par rapport à ceux qui sont
Il faut de l'argent pour faire tourner tout ça, parce qu'il faut les changer régulièrement, les lancer.
Moi, ce qui m'intéresse pas mal, c'est aussi de voir si ça va pas te permettre d'avoir des récepteurs en fait plus petits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment en mobilité, en fait, en LOE, des trucs qui sont assez gros. Donc, en fait, quand est-ce que
tu veux dire l'antenne, c'est
l'antenne, si t'as un petit modem, une petite antenne qui commence à être plus basse, parce que tu dois aller un peu moins haut, c'est quand même assez intéressant.
Et en fait, Elon Musk prédit que lorsque son satellite, enfin, sa constellation sera mature, il y aura toujours au-dessus de nos têtes au moins 12 Starlink. Pour assurer les débits, les débits qu'il promet.
Avec une promesse, c'est le direct tout seul. C'est à coup, tu auras ça directement sur ton smartphone. Tu n'auras même pas une antenne.
Tu auras la tête grillée, mais
c'est ça.
Ça t'entendra bien.
Bon. Ouais. Lui aussi, il va lui en falloir de la RAM, parce qu'à mon avis, sur ses satellites Starlink,
un gros sujet,
100 000, t'as intérêt à...
Surtout s'il veut mettre des data centers dans l'espace.
T'as intérêt à avoir les bons contacts chez Samsung, j'ai l'impression.
Malheureusement, encore un sujet où l'Europe...
Non, mais alors attends, tu sais quoi? Dans Starlink, il y a du STMicro, vois-tu?
Ah, bon, alors, ok. Mais USB micro, il y en a partout. Mais c'est faible valeur ajoutée que.
Mais voilà, malheureusement.
Du STM32, il y en a absolument.
Non, parce qu'on avait le projet Iris en Europe, et puis en fait, il est en train d'avoir du plomb dans l'aile, les Allemands ont fait faire leur propre truc, enfin, on n'arrive pas.
Iris carré, c'est ça?
Non, mais ce qui est dingue, c'est que ça fait quand même des années qu'on parle de Starlink, on parle là, Léo, Kuiper, enfin, Slash Kuiper, tout ça. Les Chinois sont en train d'avancer, les Indiens sont en train d'avancer. Et nous, Iris carré, enfin, tu vois, on avait quand même OneWeb.
Ouais.
Iris carré, on a. J'ai l'impression que c'est... Oui, vous allez voir, ça va arriver. Tout ça. Alors, on connaît bien, je veux dire, Falacher, qui est un super surnageur, et je pense qu'il s'arrache les cheveux sur plein de trucs, de régulation, de technologie, mais il est temps de... Enfin, on se dit, ça accélère quand
Bah, c'est pas un projet d'envergure tel que Starlink ou Kuiper, ou Léo. C'est clair. D'ailleurs, ça s'adresse même pas au grand public, Iris Carré. Hein. C'est vraiment pour les institutions et pour certaines entreprises.